RCF. Sur RCF, nous poursuivons notre série d'émissions consacrée à l'initiation chrétienne avec le père Sébastien Guizioux. Dans les deux premières émissions, nous avons fait tout un parcours historique pour raconter combien ces sacrements de l'initiation chrétienne s'étaient mis en place au fil de l'histoire dans l'Église. Alors nous sommes maintenant au XXe siècle, juste avant le Concile Vatican II, et là il y avait eu une volonté de reviser le rituel concernant ces sacrements de l'initiation chrétienne, mais on peut dire que ça a échoué.
En effet, rappelez-vous, en 1614, il y avait déjà eu un rituel de l'initiation chrétienne des adultes qui avait été promulgué, mais c'était une sorte de rituel un peu hybride entre les adultes, les enfants. C'était pas très très clair, avec des étapes qui étaient pas bien signifiées dans le temps. Et en 1962, juste un peu quelque temps avant l'ouverture du concile, il y avait cette volonté de recréer un nouveau rituel de l'initiation chrétienne des adultes à proprement parler, fort aussi de toutes les recherches et de toutes les découvertes qui avaient eu lieu de manière historique, archéologique, etc., des pères de l'Église, pour constituer un véritable rituel de l'initiation chrétienne des adultes. Et en fait, ça a échoué. Cette adaptation n'a pas eu lieu, et est arrivé le Concile Vatican II qui a repris, qui était dans la ligne, si on veut, de toute la réforme liturgique du XXe siècle. Et dans cette constitution sur la Sainte Liturgie du Concile Vatican II, les grandes orientations ont été données pour la révision de l'ensemble des livres liturgiques, dont en particulier l'initiation chrétienne des adultes.
Voilà, et on trouve donc dans ce texte tout d'abord des éléments concernant le catéchuménat.
Alors c'est le numéro 64 de la constitution sur la Sainte Liturgie de Vatican II qui dit ceci: on restaurera le catéchuménat des adultes distribué en plusieurs étapes, dont la pratique sera soumise au jugement de l'ordinaire du lieu, c'est-à-dire l'évêque. On obtiendra ainsi que le temps du catéchuménat, destiné à une formation appropriée, puisse être sanctifié par des rites sacrés dont la célébration s'échelonne dans le temps. Et puis le numéro 65 parle aussi de la situation particulière des pays de mission. Il est dit ceci: dans les pays de mission, outre les éléments d'initiation qui appartiennent à la tradition chrétienne, il sera permis d'admettre ces autres éléments d'initiation dont on constate la pratique dans chaque peuple, pour autant qu'on peut les adapter aux rites chrétiens, conformément aux articles 37 à 40 de la présente constitution. C'est intéressant parce que ici on voit que finalement tout ce qui existe de bon dans les cultures n'a pas à être supprimé ou éradiqué. Il y a des rites d'initiation qui sont propres à l'anthropologie chrétienne, et tous ces rites qui sont bons, finalement le concile dit, dans la mesure où ils vont pas être en contradiction avec la vie chrétienne, on peut les intégrer dans le rituel de l'initiation chrétienne.
Alors ce document sur la Sainte Liturgie donne aussi des éléments et invite des orientations pour reviser les rites du baptême.
Au numéro 66, il est dit ceci: on révisera le double rite pour le baptême des adultes, le plus simple et le plus solennel, celui qui tient compte du catéchuménat restauré, et on introduira dans le missel romain une messe propre lors de l'administration du baptême.
Il y a aussi dans ce texte une révision du baptême des enfants eux-mêmes.
On révisera le rite pour le baptême des enfants et on l'adaptera à la situation réelle des tout-petits. En outre, le rôle des parents et des parrains ainsi que leurs devoirs seront mieux mis en évidence dans le rite lui-même. Il y a d'ailleurs par rapport à ça aujourd'hui dans le rituel du baptême des petits-enfants, dans ce qu'on appelle les notes préliminaires, il y a beaucoup d'éléments qui sont donnés sur le rôle des parrains, marraines, le rôle des parents aussi dans la célébration du baptême et dans le rite lui-même. Rappelez-vous, autrefois, c'était les parrains-marraines qui répondaient à la place de l'enfant. On voit bien qu'on était un peu dans quelque chose d'hybride et de pas tout à fait cohérent. Aujourd'hui, le rite lui-même s'adresse aux parents, et ce sont les parents qui répondent. Et il y a notamment dans le début du rite du baptême, c'est beaucoup plus cohérent avec la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
Et puis, on continue hein, de lire cette constitution sur la Sainte Liturgie du Concile Vatican II, qui propose encore eh bien, des adaptations, en fait, on pourrait dire, suivant le lieu, puisque c'est l'évêque qui va proposer, enfin, qui va pouvoir disposer d'une certaine manière, d'une certaine liberté.
Oui, et notamment dans le cas d'un grand concours de candidats au baptême, voilà, s'il y a beaucoup de catéchumènes ou beaucoup d'enfants à baptiser, eh bien, on peut adapter la manière de célébrer. Et puis le numéro 68 dit aussi « On composera en outre un rituel bref dont puissent user principalement les catéchistes en pays de mission et généralement, en cas de danger de mort, les fidèles, lorsqu'il n'y a là ni prêtre ni diacre. » Et ici, c'est intéressant aussi de noter cela, puisque il est bien indiqué qu'il y aura un rituel qui existe hein, de fait aujourd'hui, pour les catéchistes en pays de mission, donc des gens qui ont reçu une mission, d'animer la vie communautaire, qui sont des hommes ou des femmes, des laïcs, et qui peuvent baptiser en pays de mission. Et aussi en cas de danger de mort, là où il n'y a pas de prêtre ou de diacre disponible, des laïcs missionnés peuvent aussi baptiser, c'est le cas notamment dans les hôpitaux, par exemple chez nous, dans les aumôneries d'hôpitaux, des hommes ou des femmes aumôniers baptisent des enfants en cas de danger de mort.
On continue de regarder la Constitution, je vous propose de nous lire le numéro 69 et vous allez nous expliquer de quoi il s'agit.
Au lieu du rite appelé rituel pour suppléer sur un enfant baptisé les cérémonies omises, on en composera un nouveau où il soit indiqué de façon plus claire et plus appropriée que cet enfant baptisé auparavant avec le rite bref a déjà été reçu dans l'Église. En fait, le Concile ici veut parler de ce qu'on appelait autrefois l'ondoiement. Un enfant qui naissait de manière prématurée ou qui était en cas de danger de mort juste après la naissance, on l'ondoyait. Voilà, on faisait l'ondoiement avec l'eau. Mais en fait, on disait que c'était pas un baptême, mais c'était flou. Voilà. Et c'est pour ça que le Concile demande de bien redire les choses clairement. Et là, c'est tranché. Hein. Celui qui a été baptisé avec de l'eau, il a vraiment été reçu dans l'Église. Donc, c'est-à-dire ce rite de l'eau, même en cas d'urgence après la naissance, c'est un vrai baptême. C'est un baptême. Voilà. Aujourd'hui, l'ondoiement n'existe plus. Le baptême est un véritable baptême. De même, pour ceux qui, déjà baptisés validement, le Concile continue donc, se convertissent à la religion catholique, on composera un nouveau rite pour signifier qu'on les admet dans la communion de l'Église. Voilà. Avant le Concile Vatican II, il fallait abjurer une autre foi dans laquelle on était entré, par exemple dans l'Église protestante. Et le Concile ici dit non. Si la personne a été validement baptisée, par exemple dans une Église protestante ou dans une Église orthodoxe, et qu'elle se convertit au catholicisme, il n'est pas besoin de rebaptiser. Non, il faut faire ce qu'on appelle un acte de pleine admission dans l'Église catholique et ça se passe notamment par la profession de foi qui est dite de manière solennelle et un acte est rédigé et la personne est admise dans la pleine communion de l'Église catholique.
La Constitution sur la Sainte Liturgie parle aussi de l'eau baptismale.
C'est le dernier numéro concernant le baptême et l'initiation chrétienne des adultes, numéro 70. On peut bénir l'eau baptismale en dehors du temps pascal, dans le rite même du baptême, avec une formule plus brève qui sera approuvée.
On peut dire, après avoir lu ces numéros de la Constitution sur la Sainte Liturgie du Concile Vatican II, qu'elle donne donc des orientations qui vont être mises en œuvre et appliquées. Et il va falloir du temps, déjà au moins une dizaine d'années avant que les premiers rituels sortent.
Oui, ça dépend de quel rituel. Il y avait un besoin très fort, il y avait même une pression de la part du terrain, des diocèses, pour qu'un rituel du baptême des petits-enfants, pour le coup, soit très rapidement mis en place. Et donc on va le voir, mais finalement le rituel le plus fondamental, qui est celui de l'initiation chrétienne des adultes, va arriver après le rituel du baptême des petits-enfants. C'est pas logique en soi, parce que c'est pas ce que demandait le Concile, mais il y a eu une tellement forte pression du terrain que ça s'est passé comme ça. En tout cas, la Constitution souhaite une restructuration des étapes et la révision des rites pour que le catéchuménat soit destiné à une formation appropriée et puisse être sanctifié par les rites sacrés dont la célébration s'échelonne dans le temps. Et on va voir que alors les liturgistes, les théologiens vont se mettre au travail, donc après la promulgation de cette Constitution. Et en 1972... Vous voyez, donc une dizaine d'années comme après la promulgation de la Constitution sur la Sainte Liturgie, va paraître en latin, puisque c'est le texte de base, hein, l'Ordo Initiationis Christianae Adultorum, donc le rituel de l'initiation chrétienne des adultes, donc 1972. En français, en 1974, 2 ans après, il va y avoir une première version francophone qui va paraître, une version ad interim, en 6 fascicules, qui va être publié sous le titre « Rituel du baptême des adultes par étapes ». Et c'est en 1997 que va paraître le rituel de l'initiation chrétienne des adultes. Oui, ça a mis quand même assez de temps à paraître.
Il y a aussi un rituel du baptême des enfants en âge scolaire.
Oui, alors le rituel du baptême des enfants en âge de scolarité va être approuvé aussi par les évêques de la Commission internationale francophone en 1976 et confirmé par Rome donc en 77, et puis il sera modifié en 1983 suite à l'apparition du code de droit canonique.
On peut dire, et vous l'avez déjà évoqué Sébastien, que c'est finalement le rituel pour le baptême des petits-enfants qui a été vite rédigé, c'était une demande des diocèses et 4 ans après le concile c'était fait.
Dès 1969, ça y est, il y a la première édition du rituel du baptême des petits-enfants qui est promulguée, donc 15 mai 1969. Et en français, le rituel du baptême des petits-enfants, donc ad experimentum, hein, pour première expérimentation, est promulgué le 21 juin 1969, un mois après. Donc voilà, on sent bien qu'il y avait vraiment un besoin très très fort du terrain. Et ensuite, un peu plus tard, donc en 1973, il va y avoir ce qu'on appelle l'Editio Typica Altera, donc la deuxième édition fondamentale, avec quelques modifications de formule qui vont être approuvées, et qui va être, donc ça c'était le texte en latin, qui va être traduit en français, le texte français, donc rituel du baptême des petits-enfants, qui va être approuvé le 28 octobre 1984 par la Congrégation pour le culte divin à Rome.
Thank you.
Sur RCF, votre émission Une fois pour tous avec le Père Sébastien Guizou, nous parlons de l'initiation chrétienne. On a fait tout notre parcours historique. Nous allons nous arrêter un peu de manière générale à nouveau sur ce qu'est l'initiation chrétienne. Alors on a peut-être en tête la phrase de Tertullien au IIIe siècle qui disait « On ne naît pas chrétien ». On le devient, c'est pas la naissance biologique qui confère l'appartenance à la religion chrétienne. On devient chrétien par la suite. Oui, mais comment? C'est la question qu'on peut se poser, Sébastien.
Oui, l'Église n'est pas un club. L'Église n'est pas un club, mais elle est une convocation. C'est important de se rappeler ça. Le mot ecclésia en grec signifie l'assemblée convoquée. Autrement dit, les chrétiens ne se rassemblent pas par affinité ou par sympathie entre eux. Ce qui les réunit n'est pas non plus leur simple attachement au Christ, mais plus fondamentalement, c'est le fait d'avoir tous été appelés par lui et d'avoir répondu à cet appel. Et c'est répondre en quelque sorte à sa parole quand Jésus dit « Suis-moi ». Le baptême est fondamentalement une réponse à l'appel du Christ qui nous dit « Suis-moi ».
Important donc de situer ces sacrements de l'initiation chrétienne dans cette réponse, dans ce dialogue entre Dieu et puis celui qui veut devenir chrétien.
Les trois sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, sont vraiment la réponse de l'homme à l'initiative de Dieu. Et c'est important de comprendre ça parce que ça va un peu à l'inverse de ce qu'on pense d'habitude. C'est moi qui veux devenir chrétien, c'est moi qui veux être baptisé, c'est moi qui veux faire ma communion, c'est moi qui veux être confirmé. Eh bien non, finalement, notre initiative, elle arrive en second. Dans le fond, c'est toujours Dieu qui nous a appelés et nous qui, dans notre liberté, avons répondu. Donc, il faut changer un petit peu notre manière de concevoir les choses. Et l'homme devient chrétien par ces trois sacrements du devenir chrétien, de l'identité chrétienne. C'est la célébration de ces rites qui est nécessaire pour marquer la conversion et la nouvelle identité de celui qui, une fois pour toutes, dit oui au Christ.
On peut dire que on trouve ce que vous venez de nous dire aussi dans le rituel de l'initiation chrétienne des adultes.
Au numéro 3, il est dit ceci de manière résumée. C'est pourquoi le baptême est tout d'abord le sacrement de cette foi par laquelle les hommes éclairés par la grâce du Saint-Esprit répondent à l'évangile du Christ. Oui, la réponse. L'Église n'a donc rien qui soit davantage sa tâche propre depuis ses origines que d'éveiller les catéchumènes, les parents des petits-enfants à baptiser, leurs parrains et marraines, à cette foi véritable et active par laquelle, s'attachant au Christ, ils entrent dans le pacte de la nouvelle alliance ou confirment leur appartenance à cette alliance. J'aime bien commenter ces mots en rappelant que finalement, quelle est la fonction principale de la pastorale du baptême dans les paroisses, que ce soit la pastorale du catéchuménat ou la pastorale du baptême des petits-enfants. Ici, c'est très clair. L'Église n'a donc rien qui soit davantage sa tâche propre que d'éveiller les catéchumènes, les enfants, les parrains, à cette foi véritable et active. Qu'est-ce qu'on fait dans la pastorale? On fait de l'éveil à la foi. Voilà. C'est éveiller à la foi. Donc, voilà, c'est ça le plus important, c'est vraiment de donner le goût de la foi. Notre pastorale autour de l'initiation chrétienne, c'est donner le goût de la foi, très important. Et le numéro continue, tel est le véritable objet de l'activité pastorale qui forme les catéchumènes et prépare les parents. Tel est aussi l'objet de la célébration de la parole de Dieu et de la profession de foi dans le rite du baptême.
Pour poursuivre autour de cette réflexion sur les sacrements de l'initiation chrétienne, il est peut-être intéressant maintenant de s'arrêter au premier mot, c'est-à-dire au mot « initiation », parce que ça a aussi vraiment son importance.
En effet, le décret du Concile Vatican II sur l'activité missionnaire de l'Église, « Agentes », emploie cette expression « les sacrements de l'initiation chrétienne » pour désigner ensemble le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. En utilisant cette expression, les pères conciliaires, les évêques qui ont travaillé ces textes, ont réintroduit dans l'Église un terme qui était longtemps demeuré dans l'oubli. C'est le mot « initiation ». C'est pas un mot qu'on voit dans la Bible, par exemple. Et ce mot, par contre, était employé à l'époque des pères de l'Église, donc des grands évêques, hein, des 4e, 5e siècle, et qui aujourd'hui retrouve son actualité dans le contexte missionnaire aussi qui est le nôtre.
Et voilà, et donc c'est intéressant aussi, vous l'avez un peu évoqué, de voir qu'il est notamment question de catéchuménat, dans le décret du Concile Vatican II sur l'activité missionnaire de l'Église. Ça a aussi tout un sens.
En effet, on peut dire d'ailleurs qu'aujourd'hui nous sommes en activité missionnaire. Peut-être qu'à l'époque, on pensait que c'était surtout dans les pays qui n'avaient pas reçu l'Évangile, les pays de mission. Mais aujourd'hui, nous sommes réellement dans un pays de mission chez nous. Et donc, ce décret sur l'activité missionnaire de l'Église nous concerne évidemment en premier chef. Et au numéro 14, le décret donc sur l'activité missionnaire de l'Église dit ceci. « Ceux qui ont reçu de Dieu, par l'intermédiaire de l'Église, la foi au Christ, seront admis au catéchuménat par des cérémonies liturgiques. » Ce catéchuménat n'est pas un simple exposé des dogmes et des préceptes, mais une formation à la vie chrétienne tout entière et un apprentissage suffisamment prolongé par lesquels les disciples sont unis au Christ, leur maître. Je m'arrête un instant sur ces mots parce qu'ils sont très importants. Oui, qu'est-ce que le catéchuménat ? C'est pas un exposé théologique à apprendre par cœur qui fait que, avec une petite révision et un petit contrôle, on va pouvoir être baptisé. Non. C'est pas ça le catéchuménat. Le catéchuménat est une formation à la vie chrétienne tout entière. On apprend à devenir chrétien par ce que le catéchuménat apporte. Dans le temps qui est destiné à devenir chrétien, on reçoit beaucoup de choses et c'est ça qui forme à la vie chrétienne. Et aussi un autre élément, cette formation aide les disciples à s'unir au Christ, leur maître. C'est une agrégation au Christ, finalement, une connaissance, mais aussi une intégration à l'Église, un apprentissage de la prière, par la participation aux célébrations liturgiques. C'est de cette manière-là que l'on devient chrétien petit à petit. Et le texte continue par ces mots. « Les catéchumènes seront donc initiés, voilà ce mot-là qui apparaît, seront initiés de façon appropriée au mystère du salut, c'est-à-dire au mystère de la foi, qu'est-ce que la foi, et seront introduits par la pratique des mœurs évangéliques, c'est ce qu'on va appeler la vie morale, la manière, de quelle manière est-ce qu'on est chrétien concrètement dans la vie de tous les jours, et ainsi que par des rites sacrés à célébrer à des époques successives, c'est-à-dire que dans tout le parcours du catéchuménat, il y aura des célébrations liturgiques qui vont faire aussi entrer dans la vie du Christ. Donc ces rites-là sont importants. Dans la vie de la foi, de la liturgie, de la charité du peuple de Dieu, c'est de toutes ces manières-là que l'on va devenir chrétien progressivement.
Et donc, ce texte sur l'activité missionnaire de l'Église, Agentes, propose ensuite des étapes, les différentes étapes que vont vivre les catéchumènes.
Il continue de cette manière-là, délivré de la puissance des ténèbres par les sacrements de l'initiation chrétienne, mort avec le Christ, enseveli avec lui et ressuscité avec lui, ils reçoivent l'esprit d'adoption filiale et célèbrent avec tout le peuple de Dieu le mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur. Ici, dans cette phrase, on a bien sûr le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Et il faut souhaiter, continue ce texte, que la liturgie du temps du carême et du temps de Pâques soit restaurée de telle façon qu'elle prépare l'âme des catéchumènes à la célébration du mystère pascal pendant les solennités duquel ils sont régénérés par le baptême du Christ. Le carême et le temps de Pâques sont des temps privilégiés pour entrer encore plus profondément dans le mystère du Christ mort et ressuscité.
Et alors la Constitution dit aussi quelque chose d'important, que ce qui accompagne les catéchumènes, ce ne sont pas seulement des spécialistes, mais que c'est toute la communauté qui doit être concernée.
En effet, peut-être on aurait tendance à se dire, c'est les prêtres, c'est eux un peu les spécialistes ou les diacres qui vont s'occuper des catéchumènes. Alors bien sûr, ils font partie du parcours, mais le Concile est très clair là-dessus. Il dit ceci, de cette initiation chrétienne au cours du catéchuménat doivent s'occuper non pas les seuls catéchistes ou les seuls prêtres, mais toute la communauté des fidèles. Et de façon spéciale, les parrains et marraines, de telle sorte que dès le début, les catéchumènes sentent qu'ils appartiennent au peuple de Dieu. Et ça, on a encore beaucoup de travail à le faire, hein. Quelquefois, mon expérience m'a fait voir que dans des assemblées du dimanche, par exemple, où on accueillait des catéchumènes, bon, il y avait éventuellement telle ou telle personne qui était avec eux, mais sinon, personne de l'assemblée n'essayait de les connaître ou de les accompagner. Ou même après le baptême, j'ai vu ça aussi dans des paroisses où le dimanche qui suivait Pâques, j'ai vu un nouveau baptisé être tout seul sur son banc et personne ne lui parlait. C'est horrible. C'est horrible. C'est toute la communauté des fidèles qui doit prendre soin des catéchumènes et des nouveaux baptisés. Donc là, il y a vraiment un appel, vraiment à faire un énorme effort sur cet accompagnement avant la célébration du baptême et après la célébration du baptême par toute la communauté des fidèles. Et le concile continue, et comme la vie de l'Église est apostolique, les catéchumènes apprendront aussi à coopérer activement par le témoignage de leur vie et la profession de leur foi à la proclamation de l'Évangile et à l'édification de l'Église. Les catéchumènes, même avant d'être baptisés, font partie de l'Église. Et ils témoignent aussi, et ça apporte beaucoup à toutes les personnes qu'ils rencontrent, qu'ils soient dans la communauté chrétienne ou en dehors de la communauté chrétienne. Et le numéro 14 termine par ces mots: le statut juridique des catéchumènes doit être clairement défini dans le nouveau code de droit canonique, qui sortira bien plus tard, en 1983. En effet, ils sont déjà unis à l'Église, ils sont déjà de la maison du Christ, et il n'est pas rare qu'ils mènent une vie de foi, d'espérance et de charité. Voilà. Le catéchuménat est déjà du devenir chrétien. Et donc, c'est pas simplement à partir du rite du baptême, mais bien avant, les catéchumènes vivent du Christ et sont aptes à témoigner de leur foi et de leur attachement au Christ.
Eh bien, c'est ainsi que s'achève cette émission. Sébastien Guizioux, merci beaucoup. Nous nous retrouverons lors d'une prochaine émission et nous parlerons notamment des rites d'initiation. À très bientôt.